C'est la revue de presse, Claude Askolovitch. On parle de lettres ce matin.
Des lettres d'amour qu'écrit une jeune femme de 21 ans à un terroriste emprisonné. « Cette nuit, Allah m'a fait rêver de toi », écrit Maeva Salah Abdeslam, l'unique survivant des commandos islamistes qui tuèrent 131 personnes le 13 novembre 2015 à Paris. « Cette nuit, Allah m'a fait rêver de toi, je ne saurais plus te dire quel était ce rêve, mais à mon réveil, mes yeux éprouvaient beaucoup de mal à retenir mes larmes, cela m'a donné envie de t'écrire une nouvelle fois. » Ces lettres sont dans la Dépêche, qui livre donc un document sur la fascination qu'exerce sur des âmes faibles, criminels et assassins. On voit dans le journal la photo floutée de Maeva, elle est de Moissac dans le Tarn-et-Garonne, elle est convertie à l'islam, elle a choisi Abdeslam comme témoin de ses angoisses et de sa foi. Et si l'on oublie à qui s'adressent ces mots, on pourrait n'y voir qu'un mysticisme étrange et parfois émouvant. Je me souviens de la toute première fois où j'ai posé mon front au sol. C'était une après-midi d'été, la chaleur était étouffante. À la seconde même où je me suis prosterné, des tremblements ont parcouru mon corps, l'inquiétude que je portais en moi s'en est allée. De toute ma vie entière, je n'ai rien trouvé de plus apaisant que la prière. J'imagine que tu connais cette sensation-là, toi aussi. Mais toi aussi est un assassin, et jamais dans leur correspondance, Maeva ne mentionne les morts des terrasses et du Bataclan, et nous tremblons nous aussi, mais d'incompréhension. Après, ces égarements de l'âme nous prend forcément un besoin de raison. On voudrait ne pas céder aux peurs, mais les peurs nous en serrent, en veux-tu, en voilà. Le Figaro célèbre la nouvelle doctrine présidentielle sur l'immigration, c'est la fin du déni. Les évêques me disent Libération et la Croix ont peur de la recherche génétique et peur de la PMA. Les Français, me disent les Échos, doivent avoir peur des arnaques financières, ils ont perdu 1 milliard d'euros en 2 ans. Est-ce pour cela que les Européens stockent près de 600 milliards sur leur matelas et du coup les Échos ont peur de la récession? Le Dauphiné Libéré et Le Progrès font leur une sur le réchauffement annoncé par les experts, plus 7% peut-être de hausse des températures en France à la fin de ce siècle. Mais c'est le 1 qu'il faut lire pour s'apaiser, non pas de déni, mais de connaissance. C'est un très bon numéro de l'hebdomadaire consacré aux savants du climat qui extrapolent l'avenir de la Terre et racontent leur parcours. Le changement climatique est un problème scientifiquement compliqué, dit le climatologue Hervé Letreux, qui nous encourage à apprendre et à enseigner le fonctionnement de la Terre. Nous sommes plus sages en le lisant, pas forcément plus rassurés.
On parle de livres ce matin dans la presse.
Dans les Échos, qui racontent la modernisation des imprimeries qui passent au numérique, connectées directement aux distributions des éditeurs, et on peut ainsi, en appuyant sur un bouton, lancer des tirages faibles, imprimer non pas des milliers de livres, mais juste la quantité que réclame le marché. Derrière cette innovation se dissimule la tristesse, c'est parce qu'on lit moins qu'on évolue. Sur les 500 romans de la rentrée, combien disparaîtront en étant si peu lus? Mais on peut désormais, sur commande, imprimer un exemplaire d'un livre qui sera posé dans un carton d'emballage, un livre unique, précieux. Le livre aussi nous soutient ce matin. Le livre donc nous soutient ce matin. Dans Usbek Erika, une femme dit son amour de Romain Gary, qui devint Émile Ajar pour être ses personnages. Delphine Horviller, femme et rabbin, assure que Gary est l'antidote au repli identitaire. Alain Finkielkraut lui retrouve l'Obs. C'est un petit événement que ce retour du philosophe dans un journal de gauche. L'interview est en ligne. Il s'amuse, Finkielkraut, de ses amis qui voudraient le voir parler de livres seulement. Son cher Peggy, Madame de Lafayette, est délaissée la politique. Dans le Figaro, Pascal Bruckner, vieil ami de Finkielkraut, parle très joliment de son frère de mots. Il ne faudrait parler que de cela. J'ai, pour Alain Finkielkraut, s'il nous entend, une histoire qui va nourrir son dégoût pour l'époque. Elle est dans l'Est républicain qui annonce une manifestation cette fin de semaine près de Bure contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Cette manif sera réservée, je cite, aux femmes, meufs, gouines, personnes trans, intersexes, non-binaires et surtout sera interdite aux hommes cisgenres. Comprenez des hommes qui ne veulent pas changer de sexe. C'est la logorée militante de nos jours. On pourrait éviter ce genre de fantaisie. En Inde, papier saisissant du Monde. La Constitution reconnaît l'existence d'un troisième siècle, sexe, mais les transgenres, des hommes nés dans le mauvais corps, qui deviennent femmes, sont discriminés, chassés, se prostituent, contractent le sida et sont les parias d'un pays. On les appelle les hijras. Elles étaient autrefois les gardiennes des harems, respectées et dansées dans les mariages pour assurer la fertilité des couples. Le colonisateur britannique les a décrétées tribus criminelles. Elles n'en sont pas guéries.
Rapidement, Claude, des lycéens pour finir.
Avec deux histoires que j'ai glanées dans l'Indépendant. Histoire numéro 1. Devant un lycée de Carcassonne, deux élèves qui s'embrassent sont pris à partie violemment par un jeune homme dealer, mais moral, qui les trouve indécents et qui va se plaindre et fait scandale de leur inquiétude dans le lycée. Peur, je lis cette réflexion, mais pourquoi donc la porte d'entrée du lycée donne-t-elle sur une cité? Histoire 2. Dans un lycée de Perpignan, des élèves mécontents de leur emploi du temps manifestent devant les grilles, puis s'en vont en ville défiler, feu de poubelle, charge de police, lacrymo, arrestation pour un emploi du temps. Quelle jeunesse que lui transmettons. Allons J'ai trouvé pourtant, c'est dans La Croix, un partisan de l'éducation à la dure. Il a une tête de baba cool, Pascal Pout, chapeau de paille et cheveux bouclés ondulés, mais il ne plaisante pas, ce paysan de l'Hérault. Il fait pousser des tomates, sans les arroser, jamais, sur une tête sèche, parce qu'il ne veut pas se mêler de la vie de ses plantes et qu'ils doivent apprendre. Et savez-vous, elles apprennent les plantes, elles poussent, d'autant plus fortes et belles. Parents, tirez-en des conclusions.
N'arrosez pas vos enfants. Merci Claude Ascolovitch.